Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, Média.
Bonjour à toutes et à tous, jeudi 14 janvier, ensemble avec vous jusqu'à midi pour commenter l'actualité des médias, déjà dans un premier temps. Bonjour Gilles Gansman.
Bonjour Valérie.
À 10h30, je recevrai la psychiatre Muriel Salmona pour parler de l'inceste et puis nous débattrons ensuite sur l'actualité.
Notre invité,
c'est Melville Poupeau. Melville Poupeau, le comédien qui est à l'affiche de la série complètement déjantée OVNI, qui est diffusée sur Canal+, qui a commencé cette semaine, lundi dernier. On va en parler avec lui. C'est une série extrêmement originale. Donc, on y reviendra dans un instant avec vous. Et on commence avec la question du jour, qui est en lien avec notre invité.
On s'est demandé finalement, puisque c'est le thème de la série dont on va parler avec Melville Poupeau, les ovnis. Eh bien, est-ce que vous croyez aux ovnis? Est-ce que vous croyez à une vie extraterrestre? C'est mon portable que vous entendez, car moi aussi, je me connecte sur le Twitter de Sud Radio pour savoir ce que vous pensez. Et en me connectant, qu'est-ce que je découvre? Que oui, vous croyez aux extraterrestres. 67% de nos auditeurs de Sud Radio croient aux extraterrestres. Non, à 33%, vous pouvez aller réagir sur le compte Twitter de Sud Radio. Et en regardant la série, vous aurez peut-être une opinion, puisqu'ils reviennent. On en parlera avec Melville Poupeau sur toutes les croyances. Tout y passe dans la série.
Absolument. Donc, allez voter sur le compte Twitter de Sud Radio.
Vous avez voté, vous, madame ?
J'ai pas voté encore.
Vous diriez quoi, oui ou non ?
J'en sais rien.
On ne l'a pas mis.
C'est
la faute à Juliette.
Ne sais pas. Le zapping.
Sud Radio, 10h midi, Média, l'instant zapping.
C'était l'événement télé hier soir dans la grande librairie sur France 5. Camille Kouchner s'est exprimée pour la première fois. C'est elle, vous savez, Valérie, qui a écrit le livre où elle raconte le viol de son frère par le politologue Olivier Duhamel.
Qui était son beau-père.
Et elle n'est pas prête à lui pardonner.
Le réel, la réalité, c'est très difficile parce que c'est mon beau-père. Voilà. Et c'est ça l'inceste, en fait. C'est que même au bout du bout, c'est difficile. Après, il a fait un truc qui est impardonnable. Donc, je lui pardonne pas. Donc, moi, j'ai eu à me taire pendant des années, pendant 30 ans de silence. Maintenant, je trouve que le silence, il est pour lui. Voilà. Et moi, j'ai eu à vivre avec cette réalité. Et lui, depuis un moment, vit hors de cette réalité. Ça a l'air d'aller très bien, etc. Je trouve ça injuste, en fait.
Des propos chocs du meilleur ami des Gilets jaunes, il est de retour, c'est François Berléand. Hier sur Non-Stop People, dans l'émission de Jordan Deluxe, il s'en est pris aux anti-vaccins.
On est au pays de Pasteur, il y a des crétins qui pensent que le vaccin... Mais s'il n'y avait pas eu le vaccin contre la rage, il y aurait eu des milliers de morts. Et il y a des crétins qui pensent qu'on ne doit pas se faire vacciner. Tant pis pour eux, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Parce que pour moi, ce sont des crétins. Des gens qui ne croient pas en la science sont des crétins, pour moi. Parce que ça ne repose sur rien. La science, elle repose sur quelque chose, sur des faits objectifs. Il faut être pragmatique dans la vie. Quand on est contre le vaccin, c'est comme, si vous voulez, les témoins de Jéhovah qui sont contre les antibiotiques, contre je ne sais pas quoi, les prises de sang, les vaccins, tout ça, etc.
Évidemment, le mot crétin a beaucoup,
beaucoup fait réagir.
Le logo bleu, blanc, rouge de Carrefour va-t-il devenir rouge avec une feuille d'érable blanche? C'est la question qu'on se pose. En effet, Valérie, les Canadiens discutent pour racheter notre Carrefour national. Eh bien, hier, Bruno Le Maire était invité de C'est à vous et a révélé que le gouvernement s'y opposerait.
Carrefour, c'est le premier employeur privé de France. Carrefour, c'est un chaînon essentiel dans la sécurité alimentaire des Français, dans la souveraineté alimentaire à laquelle je suis viscéralement attaché comme ministre de l'économie et comme ancien ministre de l'agriculture. Et j'ai vu pendant la crise de la Covid, le premier confinement, à quel point la sécurité d'approvisionnement, c'est vital pour nous tous. Le jour où vous allez chez Carrefour ou chez Auchan ou chez Leclerc et qu'il n'y a plus de pâtes, plus de riz, qu'il n'y a plus de biens essentiels, vous faites comment? Je ne suis pas favorable à cette opération.
Voilà, j'imagine que vous allez revenir dans...
On va en reparler, mais imaginez que la sécurité alimentaire ne serait le fait que des Français, me paraît...
On a vu avec les masques, avec les médicaments et des choses qu'on n'arrivait pas à avoir en France, parce que justement, on n'avait plus une propre production. Non, vous ne trouvez pas que ça se tient?
Je ne vais peut-être pas
faire le débat avec vous.
Mais on peut le faire, effectivement.
Il y a un moment, on a dit qu'on rapatriait un peu nos usines et nos industries. Voilà mon opinion, vous le direz à 11h. Vous avez peut-être vu, alors je ne sais pas si vous avez vu cette image, Valérie, étonnante et choquante, d'un cerf apeuré en pleine ville.
Oui, j'ai vu, terrible, je n'ai pas pu regarder. Moi,
de Chantilly, poursuivi par les chiens. Une chasse à courre donc, qui a mal tourné dans la ville de Chantilly. Et bien sûr, BFM, moi ce qui m'a choqué, ce n'est pas cette image, c'est Antoine Gallon de la Société de la Vannerie qui a défendu cette tradition. Évidemment, ses propos ont choqué.
Nous nous attachons à faire comprendre ce mode de chasse qui est le plus naturel de tous ceux qui existent, puisque c'est un prédateur, la meute de chiens, qui chasse une proie. Et si les animaux nous échappent 3 fois sur 4, puisque c'est à peu près ce qui se passe généralement, eh bien, c'est parce qu'ils ont développé au fil des millénaires des capacités de fuir leurs prédateurs qui font que les espèces vivent encore. Ils fuyaient autrefois le loup, ils fuyaient autrefois l'ours.
En général, la bête, elle est rattrapée.
Ah, 1 fois sur 4, je vous le confirme, oui.
Oui, c'est bien connu, les espèces vivent parce qu'elles sont chassées.
Bien sûr.
Il est une star du rap, un des plus grands vendeurs actuels, c'est Dadju, qui vend beaucoup, beaucoup de disques. Eh bien, on peut être rappeur, Valérie, et fan de Céline Dion.
Je suis un grand fan de par ma mère, ouais. qui écoutait beaucoup de variétés françaises, dont Céline.
S'il suffisait d'aimer ?
S'il suffisait, c'est ma préférée, ouais. c'est ma préférée. J'aurais aimé la chanter. J'aurais aimé l'écrire.
Ça donnerait quoi à Capella s'il suffisait d'être
Je rêve son visage, je décline son corps, puis je l'imagine habitant mon décor. J'aurais tant à lui dire, si j'avais su parler, comment lui faire lire au fond de mes pensées.
On pourrait changer de catégorie, c'est pas mal, hein, chanteur de variété.
Mais oui, c'est très beau.
Il a une belle voix.
Il a une très belle voix, Dadju. C'était dans C'est à vous, hier soir.
Merci Gilles. On se retrouve dans un tout petit instant avec notre invité Melville Poupeau pour parler des ovnis, et ça fait beaucoup réagir.
C'est vrai, sur Twitter.
Quand je dis je sais pas, je pense plutôt que oui, beaucoup de nos auditeurs disent c'est idiot de dire qu'il n'y a pas d'autres civilisations, etc. Quand je dis je sais pas, c'est que je pense que oui, effectivement, c'est possible. Allez, on se retrouve dans un instant et allez voter sur le compte Twitter de Sud Radio.
Sud Radio 10h midi, Média, l'invité du jour.
L'invité du jour, c'est Melville Poupeau. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. On est ravis de vous recevoir pour un ovni, c'est le cas de le dire. On a dû vous la faire souvent pour cette nouvelle série qui est diffusée depuis lundi sur Canal+, qui s'appelle OVNI, avec un S entre parenthèses, et qui est une sorte d'objet télévisuel non identifié. Absolument, on peut le dire comme ça.
Absolument, je crois qu'ils ont mis un S parce que la série en elle-même a un côté ovni-esque, les personnages sont tous des ovnis, on parle d'ovni, et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, de voir cette période-là, les années 70, traitée de cette façon, ça nous donne l'impression, nous, de vivre dans un autre monde et presque, nous, d'être des ovnis par rapport à cette époque.
La moustache, ça ne vous a pas traumatisé ?
Moustache d'ovni.
Donc, vous incarnez Didier Mature, un ingénieur spatial brillant et patatras dès le début, la fusée qui devait s'envoler explose au décollage. Absolument. Et là, du coup, on vous met sur la touche et vous retrouvez au GEPAN. Le GEPAN, c'est un service qui existe réellement.
Qui existe toujours, qui a été créé dans les années 77-78 par un type qui s'appelait André, dont on parle dans la série. Ouais. Donc il y a pas mal de faits qui sont repris et de dossiers dans la série qui sont des faits réels, enfin réels.
Oui.
Ou pas, mais enfin, je veux dire,
les flamants roses qui tombent sur la terre, ce n'est pas encore arrivé.
Mais ça peut arriver, des paniques d'oiseaux, ça peut arriver. Le sens de la série, c'est qu'il y a des phénomènes que les gens ne comprennent pas, et on demande à ce bureau, et notamment à son directeur, Didier Mature, que j'incarne, d'expliquer, de donner une raison rationnelle à ces phénomènes.
Vous étiez au GEPAN, vous ?
Non, moi, j'y suis pas allé, parce que les auteurs, eux, ont fait pas mal de recherches, ont rencontré. Au début, le GEPAN, qui aujourd'hui s'appelle le GEIPAN, ça a changé de nom, ils avaient un petit peu peur qu'on tourne ça en dérision et qu'on se moque soit de eux, soit des témoins qui ont vu des choses, alors que pas du tout, la série parle vraiment avec respect, et puis même laisse la porte ouverte à plein de théories.
Alors, ce qui est très réussi dans la série, on ne va pas trop raconter ce qui s'y passe, mais d'abord, c'est tous les personnages qui sont là, qui sont vraiment formidables et formidablement bien incarnés, mais c'est que c'est à la fois, moi j'ai eu un petit peu peur au début, c'est à la fois farfelu, mais tout en restant sérieux, c'est-à-dire qu'on est resté sur cette crête où ça aurait pu être du burlesque.
Absolument.
Complètement ridicule, et là, il y a quelque chose de très réussi, où on est replongé dans cette France des années 70, les décors, les costumes sont... on sent le tergal de votre costume.
Ce qui n'est pas toujours agréable à porter quand il fait chaud, c'est matière. Parce qu'à l'époque, tous les habits avaient encore du synthétique, du polyester.
Oui, c'est ça.
Et non, c'est vrai que le challenge pour Anthony Cordier, et puis pour les auteurs, Anthony Cordier le réalisateur, c'était de réussir à faire à la fois quelque chose de comique, de divertissant, presque même de burlesque, et en même temps de garder une ligne narrative et d'intrigue qui soit palpitante. Et je pense que c'est ce qu'ils ont réussi à faire. C'est-à-dire qu'on est vraiment avec les personnages, on a envie de savoir ce qui se passe, il y a un côté un peu addictif, comme,
complètement,
dans toutes les bonnes séries. Et en même temps, on s'amuse à retrouver une époque, des personnages, des clins d'œil aux émissions de télé de l'époque.
Dans tous les détails, c'est ça qui est assez incroyable. Alors évidemment, les détails des années 70, ça va des costumes, de la corbeille de pain que certains ont eu dans la cuisine, tous les objets en plastique, tous les objets, tout est là pour vraiment, il y a eu un travail. Donc moi, je voulais vous demander si vous avez une assurance sur le cancer, parce que je crois qu'il y a un plan sur chaque plan, vous fumez tout le temps. Et on n'est plus habitué à voir des gens qui fument.
Bah, dans les années 70, tout le monde fumait. Hein, tu vois même des vieux films où pendant la consultation chez le médecin, le médecin fume sa clope, les voitures, tout le monde fume
dedans.
Sur les
plateaux de télé. Voilà,
exactement. Donc,
il fallait fumer.
Et puis moi, je fume. Mais le problème quand on fume au cinéma, c'est qu'on rallume clope sur clope pour être raccord. Donc quand on commence une clope dans un plan, le plan d'après, il faut qu'elle soit raccord. Et surtout, quand on est vraiment fumeur, à la fin de la scène, on se dit « Ah, je vais m'allumer une bonne clope
». Donc ça fait beaucoup de clopes au final.
C'est des clopes, des fausses clopes de cinéma qui ne font pas l'effet d'une vraie clope.
Alors ça, quel goût ?
Non, c'est des clopes, des vrais clopes. Moi, je fume des vrais clopes. Ouais. Mais ce que je veux dire, quand tu la fumes à l'écran, t'en profites pas autant que quand tu la fumes hors champ et que là, t'es vraiment.
Et puisqu'il faut qu'elle ait la même longueur, quelle que soit
les
la
clope.
Et donc, il y a quelqu'un qui vous dit. Ou qui
Il y a quelqu'un qui te tend la clope à moitié, à un quart, juste le mégot pour que t'aies plus que
C'est vrai, il y a un assistant.
T'as jamais vu sur un plateau de
tournage.
Ah, bah oui, c'est le travail de la script ou des accessoiristes de faire en sorte que d'un plan à l'autre, ce soit raccord.
Ce soit bien raccord. Quand vous avez reçu le projet, vous vous êtes dit quoi? Vous avez tout de suite adhéré parce qu'il faut, il faut dire que les deux scénaristes, Clémence Dargent et Martin Douer, sont jeunes, ils n'ont pas connu cette époque.
Absolument, ils sont passés par la Fémis dans une section qui est spéciale pour le développement des scénarios de série. Parce que c'est toute une mécanique et un travail un peu différent du scénario de cinéma, d'abord parce qu'il y a une durée qui n'est pas la même. Et puis, dès que j'ai lu ça, je me suis poilé. J'ai trouvé que le personnage avait plein de facettes intéressantes à développer. Les années 70, il y a à la fois le côté intrigue, effectivement, le côté burlesque, et puis aussi une comédie familiale avec ce couple que je joue avec Géraldine Pellas, qui est divorcée,
formidable,
mais qui, on sent qu'ils sont encore un petit peu...
Et les enfants sont incroyables.
Et les enfants, donc voilà, oui, c'est vrai que... Et puis j'avais envie de faire une série... Parce que j'en avais fait une que j'avais bien aimée sur TF1, et là je trouvais qu'il y avait un personnage aussi fascinant et passionnant à incarner, que j'assumerais sur le long terme, donc comme il y a une saison 2 qui est en cours de...
Il va y avoir une saison 2 de
Absolument, qu'on doit commencer en avril.
Il faut dire à nos auditeurs quand même qu'il y a une vraie fin, ce que moi j'ai apprécié. Qui est ouverte, mais il y a une vraie fin quand même. On ne nous emmène pas il y a plein de révélations dans l'épisode 12 quand même.
Absolument. C'est, moi aussi, c'est la peur que j'avais, c'est qu'il tourne autour du pot et qu'on n'aborde vraiment jamais vraiment le sujet, alors que là on va vraiment à fond dans le sujet, et je pense que la saison 2 va en ramener encore plus de surprises et aller plus loin dans les découvertes.
Il faut citer, vous l'avez fait, Géraldine Pellas, il y a aussi Michel Vuillermoz qui est formidable,
incroyable.
Nicole Garcia avec des références à Hitchcock, on voit ce plan où on a vraiment l'impression d'être dans La mort aux trousses. Il y a beaucoup de références cinématographiques, références
musicales. Et deux jeunes acteurs exceptionnels.
Oui, Daphné Patakia et Quentin Dolmer.
Voilà. Absolument.
Quentin Dolmer qui est incroyable.
Parce que c'est une équipe un peu mal assortie,
un peu débracassée. Mais chacun avec leur personnalité, puis leur charme, leur humour. Et c'est vrai qu'à jouer, c'était un plaisir parce qu'on était toute une troupe d'acteurs avec beaucoup de scènes à jouer ensemble et qu'on avait la joie de se faire marrer les uns les autres, de proposer des choses. Et Anthony Cordier, qui est un très très bon metteur en scène et très bon directeur d'acteurs, nous a laissé nous amuser autant qu'on pouvait.
Il y a un peu de Pierre Richard dans votre personnage, on vous l'a dit.
Il y a un peu de ce côté personnage.
Un peu lunaire.
Avec des références au cinéma des années 70, pour la France, Pierre Richard, Louis de Funès, tout ça.
Steven Spielberg, il y a un épisode.
Il y a carrément.
Vous découvrirez un épisode autour de Steven Spielberg.
Un peu d'Italie, la comédie italienne un peu insouciante, le fantastique, Hitchcock, vous disiez, même un peu de Kubrick par moment. C'est vrai qu'on s'est amusé à faire du cinéma, en fait.
Et ça fait quoi d'avoir le son de Valéry Giscard d'Estaing sur son sexe?
Mais dévoilez pas trop de trucs, faut découvrir.
Pauvre Valéry, j'aurais bien aimé qu'il voie la série.
Qu'il vous voie de son vivant sur une séquence. Bah, vous comprendrez en regardant la série.
C'est tout à fait une autre époque. C'est vrai qu'on se rappelle de choses, une espèce d'insouciance, de légèreté. Il y a du Max Meynier. C'est vrai qu'on pouvait pendant des heures parler à des routiers qui avaient des problèmes mécaniques et qui s'exprimaient à la radio. Ouais. Et tout le monde s'intéressait à ça.
C'est compliqué de tourner nu, puisque je fais référence à une scène où vous êtes nu.
Eh ben moi, Ça dépend de quelle face on me filme.
C'est vrai, vous préférez. Vrai. Voilà, vous y allez deux. On voit les fesses et on voit l'autre côté.
Non.
Si. Bah, si vous êtes dos au début du plan.
De dos, oui, d'accord, mais de face, non, on ne voit pas le.
Ah non, mais on voit le téléphone. Non, on ne voit pas le robinet. Ah, vous auriez refusé si vous voyiez le robinet ?
Bah, je suis plus mal à l'aise à montrer. Ouais. Bon, en fait, c'est une pute. Ça dépend de la scène, ça dépend du metteur en scène, ça dépend du mood général du truc. Là, c'était une comédie, j'avais aucun problème à. Puis ça dépend ce que, si j'ai fait un régime avant ou pas, et puis j'ai fait du sport ou pas. Voilà. Si je me sens bien dans ma peau ou pas.
Ouais.
Comme tout le monde.
Ouais. Vous regardez quoi, vous, à la télé, enfin, ou sur les plateformes ? Parce que quand on dit à la télé, on va se retrouver dans les années 70. Mais vous regardez quoi ?
Moi, je regarde beaucoup de musique, beaucoup de documentaires sur la musique. En ce moment, j'écoute plus de la musique classique. Donc voilà, des trucs sur les chefs d'orchestre.
Mmh. Et une émission, alors vous êtes né en 73, mais une émission d'enfance qui vous a marqué.
Bon, les Enfants du Rock, Manœuvre, Antoine de Caunes. Moi, comme on a baigné avec mon frère dans un univers plutôt musical et tout ça, c'est vrai que dès qu'il y avait un concert ou des invités musicaux, c'est ça qu'on regardait.
C'est ça que vous regardiez. Pourquoi vous vous remettez pas à chanter ? Je vous ai dit quand vous êtes arrivé que j'ai adoré cet album que vous avez fait avec Benjamin Biolay, qui était pour la musique, très chouette. Vous avez un frère musicien.
Absolument, il y a Harold Popo qui vient de sortir un livre électrique et passionnant qui raconte son parcours dans la musique. Bah moi, c'est quand on m'appelle, un copain ou mon frère m'appelle pour faire de la musique, j'arrive avec plaisir et puis je m'éclate. Mais moi, tout seul dans mon coin, je poussais la chansonnette, non. J'ai essayé, je l'ai fait, mais non. Puis j'ai des beaux projets en tant qu'acteur, des rôles qui me plaisent, donc je me concentre là-dessus.
Et aujourd'hui, question un peu cliché, un peu bateau, il n'y a plus de différence entre la télé et le cinéma ?
Bah de moins en moins. Ouais. On est plus sur un modèle anglo-saxon. Mmh. Moi-même, j'ai un peu révisé mon jugement. Quand j'étais petit, il y avait vraiment les acteurs de théâtre, les acteurs de télé. Même un peu, on était condescendants quand on faisait du cinéma avec ses collègues de la télé. Alors qu'en Angleterre, depuis toujours, un acteur, il est censé faire du musical, pourquoi pas une publicité, un film d'auteur, du Shakespeare. Enfin voilà, c'est un acteur. Et en France, on est arrivé un petit peu plus sur ce modèle-là. Et c'est une bonne chose parce qu'aujourd'hui, des acteurs du français, par exemple... Mmh. Font plein de films, de la télé, et puis des acteurs de cinéma vont plus volontiers à la télé ou sur les planches, donc il y a un vrai mélange, et c'est vrai que j'ai l'impression de faire mon métier d'acteur, tout simplement.
Mmh. Est-ce que les extraterrestres sont obligés de porter le masque de nos jours ? Est-ce qu'ils vont arriver avec le masque dans la saison 2 ?
J'en ai entendu de toutes les couleurs, des vertes, mais pas seulement des vertes et des pas mûres. Sur des théories de plus en plus farfelues, des gens qui pensent ceci, cela, voilà, chacun pense ce qu'il veut. Après, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut que déjà, comme en mathématiques, il faut que la théorie et que l'équation soient belles, c'est ça qui compte.
Ouais. Vous avez découvert des choses ou pas sur l'aérospatiale ? Vous avez été obligé de découvrir ?
On a eu la chance d'avoir Jean-Pierre Luminet, qui est un grand astrophysicien comme conseiller, qui est venu sur le tournage et on a beaucoup parlé. Et oui, il y a des théories qui sont tellement... Et pourtant, des théories scientifiques validées par la science officielle qui sont tellement farfelues qu'on n'en vient pas. Bah, on en parle un petit peu dans la série, c'est ça qui est amusant. C'est qu'aussi, on aborde, par exemple, la théorie du chat Schrödinger, qui est à la fois mort et vivant et qui crée deux univers qui se juxtaposent.
Vous parlez aussi des fameux cercles qu'on avait vus sur les champs. Ouais. Il y a un épisode...
Les crop circles,
vous en parlez aussi.
Bien sûr.
Et puis, il y a plein de choses comme ça qui sont décodées de la série. C'est assez formidable. Ça a été tourné avant ou après le Covid ? Vous avez pu tourner ? Ah oui, d'accord.
On a fini en décembre dernier. Et après, j'ai tourné un autre film juste avant le Covid. Et puis, j'en ai tourné un entre les deux confinements. Enfin, chacun se débrouille, mais c'est vrai que c'est une situation tragique pour les musiciens. Plus de concerts, plus de travail. Ouais,
c'est une situation compliquée. Et les cinémas qui sont fermés. Effectivement, on a du mal à comprendre qu'on puisse prendre l'avion, le train en étant côte à côte et pas aller dans les salles de cinéma.
Ah, vous êtes militante, madame.
Sur le théâtre et le cinéma, après les concerts, je pense que c'est encore autre chose parce qu'on bouge et qu'on chante, etc. Mais sur le cinéma et le théâtre, on est généralement pas très excités.
Surtout quand il y avait eu la reprise, c'était un siège, on était séparés par un siège.
Donc on avait l'impression que tous les films se plantaient.
Oui. Absolument, mais c'était pas exactement ça. Bah, écoutez, on va vous retrouver, donc c'est déjà en accès libre sur MyCanal, pour tous ceux qui ont MyCanal, et on vous encourage vivement à aller voir cet ovni qui est bien perché, mais qui nous fait voyager dans le temps. Franchement, c'est original et bravo à Canal+ d'avoir accepté cette expérience, puisque ça sort quand même des sentiers battus, et dans la réalisation et dans l'histoire.
Même par rapport aux films qui se montent en ce moment, c'est vrai que c'est une chance de pouvoir refaire ce genre de film à
ce niveau-là. Vous avez été surpris de l'accueil justement qui a été de la critique, qui est totalement dithyrambique.
Non, parce que je pense qu'aujourd'hui les gens sont plus ouverts et puis ils se rendent bien compte qu'il y a un phénomène dans la série et des gens qui s'investissent dans les séries de plus en plus sérieux et talentueux, et que c'est un espèce d'âge d'or, et Canal+ porte cet âge d'or, et ça fait plaisir d'en faire.
Ça a dû leur faire drôle aux scénaristes de voir les moyens qu'ils ont eu à disposition. Ce sont deux jeunes scénaristes, il y a quand même...
Ils ont la pression pour la saison 2, mais c'est tant mieux, parce qu'il faut les faire travailler.
Non, c'est très
on
drôle,
rappelle leurs noms,
réalisé.
Clémence Dargent et Martin Douer. Et puis le réalisateur, c'est Anthony Cordier. Et puis on peut rappeler, effectivement, Michel Villermoz avait aux côtés Melville Poupeau avec, on dit, de la comédie française pour Michel Villermoz.
C'est un nom en particulier. Oui.
Géraldine Pellas, Quentin Dolmer, Daphné Pataki, formidable, dingue, perché. Jean-Charles Clichet, Laurent Poitrenaud, Capucine Valmary, Alessandro Mancuso et bravo. Olivier Broche. Voilà, on les a tous cités.
Génial, merci.
Et merci d'être venu sur Sud Radio ce matin, Melville Poupeau.
Merci à vous.
Et on a parlé avec Melville des ovnis. Est-ce qui ont débarqué sur Canal+, et est-ce qu'ils vont débarquer un jour sur la Terre ? Est-ce que vous croyez aux extraterrestres ? Eh bien, vous avez beaucoup voté oui à 65% sur le compte Twitter de Sud Radio, non à 35%. Alors, Percha nous dit « Il serait stupide de penser que nous sommes la seule vie intelligente de l'univers quand on connaît son immensité. » Bonge, Ponge, Lesbob. J'ai failli... pseudo. Ouais. Je pense que c'est un pseudo, je pense pas que c'est son vrai nom. « Quand vous parlez d'extraterrestres, est-ce que vous parlez d'une cellule vivant hors planète Terre ?» Oui, mais monsieur, on parle de toute forme de vie. Et pourquoi n'y aurait-il que pas une vie ailleurs dans la galaxie ? Nous y sommes bien, nous dit Titi 974.
Voilà. Donc, Jackie nous dit « L'univers n'a pas d'origine ni de fin et est d'une taille inimaginable par l'homme. Les distances entre systèmes solaires viables sont gigantesques et se mesurent en années-lumière, qui eux-mêmes sont des milliards. La puissance milliard, dire non serait idiot. » Voilà. Donc nous avons effectivement une majorité de gens
qui pensent aux extraterrestres.
Voilà. OVNI, si donc sur Canal+, et dans un instant, on change de sujet.
Revenons sur la Terre, c'est ce que
j'allais dire. Des choses très concrètes et très, très violentes. On va parler pédocriminalité et inceste avec la psychiatre Muriel Salmona, présidente de l'association Mémoire Traumatique. À tout de suite.
Sud Radio, c'est comme ça que vous l'aimez.
Moi, je vous remercie, Sud Radio. Vous dites vraiment ce qu'il faut dire quand il faut le dire. Et vous ne mâchez pas les mots.
Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, la publication du livre de Camille Kouchner a fait l'effet d'une bombe à fragmentation, livre dans lequel elle raconte l'inceste vécu par son frère quand il était adolescent. Je suis en ligne avec Muriel Salmona, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre, présidente de l'association Mémoire Traumatique et Victimologie. Vous avez publié le livre noir des violences sexuelles chez Dunod. Je voulais vous avoir ce matin pour parler de l'inceste. On dit souvent l'ultime tabou. Vous dénoncez, vous, depuis de nombreuses années, cette loi du silence, cette omerta qui règne, ces chiffres qui sont assez terribles sur les violences sexuelles. 10% des viols seulement font l'objet de plaintes. 74% sont classés sans suite. 50% des plaintes instruites sont déqualifiées en agression sexuelle ou en atteinte sexuelle. Bref, des chiffres qui font froid dans le dos plus généralement sur les violences sexuelles. Comment vous l'expliquez, ça?
Alors, c'est justement par le déni, la loi du silence, le fait que finalement, comme ces violences sexuelles s'exercent toujours dans un climat, dans un rapport de domination, c'est le discours dominant qui l'a emporté sur la voix des victimes et que les victimes ont été complètement invisibilisées, bâillonnées.
Ouais.
Et elles ont dû survivre seules aux violences, à leurs conséquences psychotraumatiques sans que personne se préoccupe d'elles. Et on arrive à une situation telle qu'elle se présente là actuellement, avec une impunité quasi totale.
Oui, mais on a l'impression que ça ne change pas, en fait. Je voyais qu'en 10 ans, les condamnations pour viol ont diminué de 40%, alors que les chiffres explosent. Donc il y a quand même un paradoxe avec MeToo, avec une parole qui s'est libérée, et avec une justice qui visiblement ne suit pas, et des victimes qui n'osent plus pas, toujours pas, aller porter plainte.
Justement à cause de cette justice qui ne suit pas, et non seulement elle ne suit pas, mais tout est extrêmement maltraitant. On sait que les procédures judiciaires augmentent le risque pour les victimes de passage à l'acte suicidaire, tellement c'est violent. Donc c'est ça qu'il faut absolument réformer. Oui, on est dans une situation où non seulement ça ne bouge pas, mais voire ça s'aggrave, et c'est pour ça qu'on monte au créneau, et effectivement, la bombe que représente le livre de Camille Kouchner est vraiment bienvenue, pour que par rapport à toutes les vagues successives MeToo, vraiment les violences sexuelles faites aux enfants, les violences sexuelles incestueuses, enfin puissent être présentes dans l'espace public.
Oui, incestueux dans le cas de Camille Kouchner, un beau-père, c'est de l'inceste.
Oui,
parce qu'il y a là aussi dans la loi des progrès à faire, c'est-à-dire que l'inceste n'est pas juridiquement qualifié, c'est ça ?
Alors si, les violences peuvent être qualifiées d'incestueuses, on a fini par l'obtenir. Ce qui est surtout, ce qui manque énormément dans la loi, c'est la notion de seuil d'âge du non-consentement, parce que dans le cadre d'une situation d'inceste, c'est complètement impossible, inconcevable, hallucinant en quelque sorte, d'interroger le consentement de l'enfant. Et nous, on demande un seuil d'âge de non-consentement pour l'inceste, en tout cas à 18 ans.
Ah oui.
Voilà. Et pareil pour les personnes ayant autorité, sinon à 15 ans. Mais c'est ce que le Parlement européen exhorte tous les pays, justement, à avoir ce seuil d'âge.
Oui,
et à mettre en place une imprescriptibilité.
Il y a certains pays qui le font ou pas ?
Oui, il y a certains pays. Enfin, nous, de toute façon, on est un des rares pays, mais vraiment, on devient le plus rare des pays, quasiment, à ne pas avoir de seuil d'âge du non-consentement. C'est-à-dire qu'on
traite
sexuelle, comme pour les adultes, sans prendre en compte la réalité, la vulnérabilité et puis la cruauté que se peut représenter le fait de rechercher un consentement d'un enfant qui n'a aucune possibilité d'échapper à un adulte, particulièrement dans sa famille.
Oui, Alain Finkielkraut, vous l'avez vu, questionnait le consentement. Il disait que c'était pas pareil un inceste ou un viol sur un enfant de 5 ans que sur un ado de 13 ou 14 ans. Est-ce que ça... J'imagine que vous avez été choquée par ces propos.
Oui, ça fait partie de la culture du viol, avec cette sexualisation de l'enfant, et puis où finalement c'est vraiment la notion, vous savez, le détournement opéré par Lolita, comme c'est présenté, où c'est en fait les filles qui seraient à l'origine de violences Marcel Silis, qui est la victime qui, en fait, est coupable, c'est elle qui fabrique un agresseur. Alors, ce sont des pédocriminels, des agresseurs qui fabriquent des victimes. Et pendant des années, voire ils vont en fabriquer sur plusieurs générations autour d'eux. D'où l'importance de changer de discours et de ne plus, effectivement, que ce discours de propagande, en fait, pédocriminelle, qui met en cause les victimes et qui disculpe les agresseurs, soit totalement démonté.
Oui. Sur le cas de Camille Kouchner, qui encore une fois parle pour son frère, les victimes souvent ne veulent pas parler. Il y a la honte, il y a la peur, il y a tout un tas de choses qui fait que la parole est difficile, et les victimes demandent souvent à leur entourage de ne pas en parler. Et il y a tout ce débat aujourd'hui sur la responsabilité de ceux qui savaient et qui n'ont rien dit. Comment dire quand la victime ne veut pas qu'on parle ?
Alors, la victime, si elle ne veut pas qu'on parle, on a besoin, enfin, c'est fondamental, le besoin de justice et le besoin d'être secouru, le besoin d'être reconnu, c'est fondamental. En revanche, les victimes ont été sous pression et sous manipulation pour ne pas parler. C'est-à-dire que c'est le système agresseur avec ses complices qui empêche les victimes de parler. C'est le système agresseur avec ses complices qui les culpabilise, qui leur fait honte, qui leur fait porter un poids qu'elles n'ont absolument pas à porter, de devoir protéger l'agresseur, la famille, etc. Donc c'est ça là-dessus qu'il faut agir. Il faut aller vers les victimes, il faut leur poser des questions, il faut aller les secourir. Je veux dire, ce sont des enfants, c'est pas à elles de se défendre. Sinon on est dans un monde qui n'a aucun sens.
Mais comment on fait quand on parle des années après, comme c'est le cas de Camille Kouchner, se pose la question de la prescription. On a eu l'autre jour l'avocat d'Enfance et Partage qui disait que lui n'était pas pour une fin de la prescription, parce qu'il dit que ça met aussi une date butoir, en quelque sorte, dans la tête des victimes. Sinon, on reste avec
la prescription. Je suis absolument pas d'accord. Ouais. Je veux dire que la société, enfin le système agresseur, a tellement pu avoir de pouvoir dans notre société, l'impunité est telle, l'abandon des victimes est tel, qu'on ne peut pas leur fermer la porte au moment où elles peuvent enfin parler. C'est absolument inconcevable. En plus, je vous l'ai dit, le Parlement européen a voté une résolution pour exhorter les pays à l'imprescriptibilité. De plus en plus de pays vont dans ce sens-là, parce que c'est nécessaire et parce que c'est vraiment de la justice de base. Et puis aussi, ce qu'il faut voir, c'est que c'est aussi des crimes, comme je vous l'ai dit, des pédocriminels qui vont faire des victimes pendant de très longues années. Et dire aussi pouvoir vraiment instruire une plainte, c'est aussi protéger d'autres enfants. C'est ce qu'il faut voir. Et que les arguments sur la déperdition des preuves, on les a même quelques mois après un viol. Donc je veux dire, c'est pas le problème. Le problème, c'est de faire de vraies enquêtes, avoir vraiment des expertises médicaux légales qui tiennent compte du psychotrauma. Enfin, c'est rejeter d'autres victimes, c'est de faire le boulot.
Et il n'est pas fait aujourd'hui.
Personne n'a peur pour les enfants. Puis personne n'a peur. Enfin, c'est une fille sur cinq, un garçon sur 13 qui subissent des violences sexuelles. La moitié sont incestueuses. L'enquête, la DAI de face à l'inceste, c'est 6 700 000 personnes qui disent avoir subi l'inceste en France.
C'est énorme.
Crime de masse. Ouais. On ne peut pas. Et c'est exponentiel, particulièrement sur le net. Parce que c'est lié, parce que je veux dire, ceux qui commettent des violences sexuelles sur les enfants, après ils les photographient, ils les enregistrent et ils les mettent sur le net. Et ça explose, ça se multiplie par deux tous les ans. Et la France est le deuxième pays d'Europe en nombre de sites et en nombre de personnes qui vont aller sur ces sites. Le troisième ou le quatrième dans le monde. Donc on a un vrai problème.
Qu'est-ce qui pourrait être fait ? C'est-à-dire qu'on a vu des numéros verts, des affichettes, des choses comme ça, mais concrètement, et puis cette commission avait été nommée Madame Guigou, qui a démissionné.
Heureusement, elle a démissionné. Mais je veux dire, comme toujours, il ne faut pas peser sur les victimes pour que ce soit elles qui alertent, que ce soit elles qui fassent tout le travail alors qu'elles sont complètement saccagées, traumatisées. Il faut aller vers elles. Donc il faut former tout le monde pour aller poser des questions. Et puis, il faut démonter tous ces stéréotypes, toute cette culture du viol, toutes ces fausses représentations qui ont excessivement nuit aux victimes. Et là, je suis heureuse parce que là, c'est en train de se lézarder, ce système.
Ouais, vous êtes optimiste? Vous pensez que les choses sont en train de changer?
Que, oui, voilà, et qu'il n'y a plus du tout la même tolérance. Et puis, il faut que les professionnels se forment, il faut que les médecins s'engagent pour vraiment soutenir les victimes, les protéger et les soigner. Il faut que la justice se bouge. Enfin, il faut une réforme totale
de
ces institutions. Mais ça, c'est une urgence. Donc, il est plus temps de pendant 2 ans réfléchir, reprendre des témoignages, demander encore aux victimes de faire tout le travail. Il faut y aller. C'est-à-dire que c'est une priorité. Là aussi, le Parlement européen dit que c'est une priorité politique. C'est-à-dire que c'est absolument nécessaire. Et puis, il faut que tout le monde ait peur pour. Enfin, je veux dire. Voilà, on a de quoi avoir peur pour nos enfants, donc il faut agir.
Il faut agir.
Et on peut agir. Et on peut agir, on peut faire quelque chose. C'est pour ça que je me bats.
Puissiez-vous être entendu, effectivement, bravo pour votre combat. Et vous avez, Camille Kouchner l'a dit elle-même, beaucoup aidé à travers votre livre, entre autres, le livre noir des violences sexuelles chez Duno. Il ne faut pas baisser les bras. Merci beaucoup, Muriel Salmona, d'avoir été avec nous, psychiatre et présidente de l'association Mémoire traumatique et victimologie. On se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité. À tout de suite.